Il y a une maxime qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je dirais tant qu'il y a de l'espérance, il y a de la vie. Amen. Celui qui perd l'espérance, il meurt. Dans Romains chapitre 15, verset 13, Paul nous dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On l'a dit tout à l'heure, c'est surnaturel. N'essayez pas de jouer au bon chrétien qui est toujours positif, etc. Ce n'est pas ça qu'il nous est demandé. C'est de rechercher dans le Saint-Esprit cette force de rester, d'abonder en espérance. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui abonde en espérance dans notre monde actuel, il va dénoter. Hein. Il va passer pour un fou. Mais les fous, ça interpelle. Et c'est fait pour ça. Hein, on sait qu'à la Pentecôte, tout le monde a été interpellé en entendant les apôtres parler dans des langues. Et il y en a qui ont dit qu'ils sont ivres, etc. Mais il y en a qui ont été touchés. Donc quand on est fou, il y en a qu'on fait partir, mais il y en a qu'on fait venir vers le Seigneur. Abraham, et je vous renvoie, je ne vais pas le lire, c'est trop long, mais dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, Paul prononce cette phrase concernant Abraham. Il a espéré contre toute espérance. Vous savez de quoi il s'agit ? C'était bon ? Ah, c'est revenu. Avoir un enfant à 100 ans avec sa femme qui n'avait pas 100 ans encore, mais qui n'était pas loin. Ouais, il faut avoir un peu d'espérance et espérer contre toute espérance pour y croire. Mais Abraham y a cru. Et il est cité par Paul comme un exemple dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux citera aussi Sarah, Abraham comme des exemples de foi. Alors que pourtant, quand même, à un moment donné, quand ils sont allés voir Agar pour leur rendre service, ils n'ont pas trop eu la foi. Mais ce que Dieu retient, c'est pas nos erreurs. Dieu retient les moments où on a fait acte de foi. Amen. Alors ne pensez pas à vos erreurs, ne pensez pas à vos faiblesses en disant « Oui, mais moi, j'y arrive pas. » Non, dites-vous que Dieu va vous donner d'être de la même trempe qu'Abraham. Espérez contre toute espérance. Amen. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que nous devons espérer malgré ce que l'ennemi met devant nos yeux. On a parlé de notre pays, l'état de notre pays d'abord. Quand on regarde notre pays, est-ce qu'on peut encore espérer ? Michée, au chapitre 7 de son livre, dit ceci, « L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. » Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. On s'arrête là. Et vous voyez le tableau qui est dépeint ? Ça ressemble à s'y méprendre à notre monde actuel. On dit « Oh, il n'y a jamais eu autant de violence et tout ça, tu parles. » Oui, il y a les chaînes continues d'infos. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un acte de violence, on est au courant. Mais ça a toujours existé. Alors je ne dis pas que ça n'a pas augmenté, certainement ça a augmenté. Mais l'homme est mauvais. Et l'homme sans Dieu, il ira dans cette direction. C'était le cas déjà en Israël. À l'époque du prophète Michée. L'état de mon âme, est-ce que je peux espérer encore en voyant l'état de mon âme ? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 18 à 20. « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Est-ce qu'on n'est pas découragé par rapport à nous-mêmes aussi des fois ? Il y a de quoi, hein ? Non ? Vous êtes bien, vous êtes parfait. Moi, des fois, je me décourage moi-même. L'épreuve aussi, Job a connu l'épreuve, les circonstances qui nous affectent personnellement. Job dira ceci, « J'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. » Hop, ça y est, il y a un faux contact en fait, je pense. Mais on vient de lire Jérémie et Job qui sont désespérés de leur sort. Et regardez ce que tous les deux disent un peu plus loin. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, on va juste après ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Là, j'avais noté sur ma feuille, tout le monde dit un grand Amen. Mais j'aurais pas dû. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Jérémie ne se laisse pas abattre. Pourtant, là aussi, on aurait pu lire le début du chapitre où l'état du pays était au plus mal. Job, lui, va réagir à la fin de son livre. Il va dire ceci, Job 42, 2, 5. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. C'est fort hein, ce que dit Job. Et il reconnaît que dans son épreuve, il a pu connaître Dieu comme jamais il l'a connu avant. Le deuxième point, c'est espérer afin de voir ce qui n'est pas encore. Vous arrivez à espérer en ce que vous ne voyez pas, ce qui va venir dans le futur ? Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, « Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain le foule avec l'espérance d'y avoir part. » Vous imaginez, agriculteur, il a une quarantaine d'hectares. Il s'amuse à retourner la terre. 40 hectares, c'est grand. Et puis creuse les sillons. Et puis il met toute sa semence comme ça. Il a travaillé pendant des semaines. Et puis il rentre chez lui et dit « Bon, de toute façon, ça ne poussera pas. » C'est vrai que... Non. L'agriculteur qui a fait ça, lui, il va s'asseoir chez lui, il dit, bon, il me tarde là de voir ce que ça va donner. Hein ? Amen. C'est la mentalité du royaume de Dieu, ça. Le laboureur qui a semé, il s'attend à ce que la semence prenne vie. Amen. Et moi, je veux m'attendre à des choses glorieuses. D'abord, pour mon avenir, à moi, Luc, pas vous, hein, moi, c'est tout. Dans Luc chapitre 5, mon avenir, Luc chapitre 5, verset 10, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Simon avait un avenir extraordinaire. Alors qu'au moment où Jésus lui dit ça, il est où Simon ? Il est à genoux par terre, en train de dire, « Retire-toi de moi, je suis pêcheur. » C'est là, vous lirez ce qu'il y a avant. La fameuse pêche miraculeuse où Pierre s'aperçoit que Jésus, il voit au fond de son cœur, là, il se dit, bon, la honte, il se met à genoux, il dit, retire-toi de moi. Est-ce que Jésus se retire ? Non. Jésus va prophétiser sur Pierre. Et on sait que un peu plus de 2 ans plus tard, Pierre va prêcher à la Pentecôte et 3000 personnes vont se convertir. C'est une belle pêche miraculeuse. Hein ? Amen. Hein ? Et en fait, vous croyez que c'est que Pierre qui est concerné ? Moi, quand je me vois, je n'ai pas beaucoup d'espoir quand je me vois avec mes yeux. Mais quand Dieu me voit, il a de l'espérance. Et il a des plans pour moi. Et il prophétise sur nos vies en disant « Tu feras, tu seras ». Amen. Croyons-le, mes frères et sœurs. Ne restons pas des petits chrétiens médiocres qui sont tranquilles, qui font leur petit rythme tranquille dans leurs chaussons spirituels. Mais attendons-nous à vivre de grandes choses. Amen. Est-ce que Pierre, à ce moment-là, pouvait imaginer qu'il allait prêcher et que 3000 personnes allaient se convertir ? Certainement pas. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Amen. Peut-être tu t'imagines pas des choses extraordinaires pour ta vie. Oh, mais moi je suis pas Pierre, moi je suis pas quelqu'un que Dieu veut mettre. Hop. Dieu veut t'utiliser puissamment là où il t'a placé. Il y a des endroits où tu vas, où tu es le seul chrétien à aller, et il n'y a que toi que Dieu peut utiliser, personne d'autre. Alors ne dis pas, je suis trop petit. Ah oui, mais les pasteurs, c'est normal qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Non. On est tous concernés. Amen. L'avenir des autres. Ça vous intéresse, l'avenir des autres aussi ? Ouais, moyennement, j'ai l'impression. Regardez le cœur de Paul quand il dit des Philippiens, je suis persuadé, Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut regarder nos frères et sœurs avec espérance ? Même ceux dont on se dit, depuis le temps qu'il est chrétien, mais il n'a pas changé d'un pouce. Toujours son caractère. Et puis, on ne peut rien lui dire, il se vexe. Et puis, est-ce qu'on peut raisonner comme Paul et voir ce que Dieu va accomplir ? Oui, il y en a pour qui il faut du temps, plus que d'autres. J'en discutais avec quelqu'un cette semaine et qui se décourageait un peu de voir que ses progrès n'étaient pas assez rapides. J'ai dit, écoute-moi, Dieu, il est patient. Et Dieu sait à quelle vitesse on doit aller chacun. Et regarder les autres en disant, oui, mais eux, j'ai dit, regarde pas les autres. Avance à ton rythme. Et le Seigneur t'aime, il est patient. Amen. L'avenir de l'Église, vous y pensez à l'avenir de l'Église ? Ou vous pensez qu'à vos promotions professionnelles, ou à votre avenir à vous ? On doit penser à l'avenir de l'Église. L'Église universelle, bien sûr, l'Église dans le monde. Et prions pour que l'Église avance dans le monde. Prions pour les frères et sœurs persécutés, pour qu'ils aient un avenir meilleur. Mais pour notre Église ici à Lille-Jourdain, on veut avoir de l'espérance. Ou est-ce qu'on veut se décourager ? Ah, il y avait encore plein d'absences ce matin. Ah, non, on veut aller de l'avant. On fait un culte tous les dimanches maintenant. Amen. Et Dieu va honorer tous ceux qui sont fidèles. Amen. Il dit ceci à Pierre dans l'évangile de Matthieu. Il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, encore lui, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et tu peux remplacer Pierre par ton prénom. Tu le crois ça ou quoi ? Ou est-ce que tu crois que Pierre c'est le descendant des papes, comme certains ? Pas du tout. Qui c'est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie ? C'est Jésus-Christ, c'est pas l'apôtre Pierre. Mais il dit quand même à Pierre, je vais m'appuyer sur toi. Et on en voit la preuve après. Hein. Pierre a eu une part prépondérante dans la création des premières églises. Il n'a pas été le seul, mais il a fait partie de ceux. Et tu peux mettre ton prénom à la place. Sur toi, en s'appuyant sur toi, Talina, en s'appuyant sur toi, Maïté, sur toi, Séverine, et je pourrais citer tout le monde, Dieu veut bâtir l'Église. Et il proclame que même le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Jamais, moi, j'ai appris à ne plus m'inquiéter pour l'Église. Quand on devient pasteur, on est là, on regarde tout, comment ça évolue, les offrandes, la participation des gens, on est là, on se prend la tête, et au bout d'un moment, je dis, mais arrête ! Qui c'est qui s'occupe, qui bâtit l'Église ? C'est pas toi, c'est Jésus. Donc même si moi, je devais devenir défaillant, l'Église continuerait. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Jésus. Mais Jésus veut s'appuyer sur moi et veut s'appuyer sur toi. Amen. Que son nom soit béni. Et on doit être plein d'espérance. L'avenir de ma famille. Jérémie 31, 16, 17. Ainsi parle l'Éternel. Et je sais que beaucoup sont concernés, j'en fais partie. On souffre pour nos familles qui ne sont pas au Seigneur. Et regardez l'encouragement de Jérémie. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Et en parlant de ceux qui ont été perdus, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. C'est pas beau ça comme promesse ? Moi, je veux m'appuyer sur cette promesse. Amen. Pour tous les membres de ma famille, et en particulier mes enfants, puisqu'il est parlé des enfants. Troisième, dernier point, l'espérance du salut, c'est l'encre de l'âme. On l'a chanté tout à l'heure, l'encre de ma foi. Le salut, la croix. On ne peut pas faire une prédication sans parler de la croix. Amen. Jésus a donné sa vie pour nous. Et en faisant cela, il nous a offert quelque chose d'extraordinaire, c'est le salut. Et nous devons toujours garder l'espérance parce que ce salut, il est offert et personne ne peut nous l'enlever. Ok ? Il ne peut pas être ôté. Le salut ne peut pas être ôté. Attention, j'explique bien ce que ça veut dire. Le salut ne peut pas être ôté. Ça veut dire que personne, ni le diable, même en me faisant mourir, il ne m'enlève pas mon salut, on est d'accord ? Au contraire, il me fait rentrer pleinement dans le salut. La seule personne qui peut monter le salut, c'est moi. Il n'y a que moi. Si je renie Dieu, si j'abandonne la foi, si je pas si je pêche ou si j'ai un moment de défaillance, je ne perds pas mon salut pour ça. Mais si vraiment de ma bouche je dis mais, j'ai cru en Dieu, mais c'est n'importe quoi, j'y crois plus, laissez-moi tranquille avec ça. Si on a ce discours, on perd le salut. Mais si en dehors de ça, on ne perd pas le salut, ok ? On doit rester dans la foi et dans l'espérance. Et en tous les cas, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, hein, il dit moi je vois comme un sujet de joie là, au milieu de mes épreuves le fait que je suis sauvé. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 17 à 19, il dit ceci, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Ce n'est pas n'importe quoi, hein, Dieu qui fait un serment. « Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Le salut est offert, c'est une réelle garantie. Et je le répète, seul dans nos vies, seul le salut ne peut pas nous être ôté. La vie, la santé, la richesse, un être cher, tout cela peut nous être enlevé du jour au lendemain. Le salut, non. Amen. C'est pour ça que nous pouvons toujours garder l'espérance. Regardons à Jésus, l'auteur de notre salut. Les yeux fixés sur lui, nous gardons l'espérance. Amen. Et c'est important d'être stable dans cette espérance, car c'est une force pour le chrétien. Amen. Elle nous garde de beaucoup de dangers. Dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, l'auteur dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Amen. Cette espérance permet de ne pas nous relâcher. Quand on est dans l'espérance, on travaille. On avance. Le laboureur, il va aller mettre de l'engrais, il va continuer, il va faire plein de choses parce qu'il y croit. Quand on commence à se désespérer, ben, l'Église va dire « Ouais, on va aller distribuer des flyers sur le marché. » Ça sert à rien. On a déjà fait et personne qui vient. C'est vrai, hein ? Il y a une petite voix qui vient nous dire ça. Est-ce qu'on écoute cette petite voix ou est-ce qu'on y retourne et on dit on est plein d'espérance dans ce que Dieu peut faire. Amen. On aura l'occasion bientôt d'y retourner pour la soirée de la fête de la vie. J'ai trouvé. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous entendez ça ? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. L'espérance, ça nous pousse à la purification, à la sanctification. Gloire à Dieu. Je conclus ces moments avec une petite citation qui va piquer un peu, mais moi, elle m'a interpellé, donc j'ai envie de vous la partager. C'est David Wilkerson, je pense que vous connaissez. Regardez ce qu'il dit, je vous laisse lire. On ne parle pas des inconvertis, là. On parle des chrétiens. Et moi, j'ai bien aimé la manière dont il formule ça. Parfois, les chrétiens se comportent comme si Dieu n'existait pas. Que le Seigneur nous garde de cela. Amen. Hein, Jérémie, lui, nous dit, chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Amen. Et je relis, avant de prier, 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. » Amen. Gloire à Dieu, on prie ensemble, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce de nous rappeler ces choses ce matin. Seigneur, quel privilège nous avons de te connaître. Dans ce monde où tout est désespérance, tout est déception, désillusion, tu nous offres l'espérance, tu nous offres un avenir, des projets de paix et non de malheur. Seigneur, quelle grâce, nous ne pouvons pas ne pas t'exprimer notre reconnaissance. Je te prie maintenant, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Si quelqu'un est découragé ce matin, si quelqu'un a perdu cette espérance, je veux prier dans le nom de Jésus que par l'écoute de ta parole, cette personne soit fortifiée dans son cœur, dans son âme et même dans son corps. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette personne qui est terriblement angoissée ces derniers temps, qui a du mal à passer ses nuits, tellement l'angoisse est là. Je te prie pour cette personne, afin que maintenant, au nom de Jésus, tu la libères. Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si tu l'as conduite dans ce lieu, tu la bénis maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu nous libères. Libère de tout ce qui est humain en nous et qui nous tire vers le bas. Merci parce que toi, tu nous tires vers le haut, vers les lieux célestes, vers le royaume de Dieu. Nous voulons avoir cette mentalité de Christ. Oh Seigneur, pardonne-moi, oui, pour toutes les fois où je me suis comporté comme si tu n'existais pas. Seigneur, je veux réaliser que tu es vivant. Je veux réaliser que tu es puissant. Je veux réaliser que en toi, tout est possible. Amen. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, amen.